Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue pour ces 10 minutes de géopolitique. Nous allons commencer par une petite page de publicité pour le nouveau numéro de Conflit qui est paru en kiosque. Un numéro dont le dossier est consacré à l'Afrique de l'Ouest, le départ de la France, la fin de Barkhane, l'arrivée de la Russie, la diffusion de Wagner dans cette zone est en train de rebattre l'ensemble des cartes de la région. Et c'est évidemment une région très importante qui va du golfe de Guinée jusqu'au Sahel, une région dans laquelle la France conserve encore des intérêts. C'est l'objectif de ce dossier que d'analyser cette main basse de la Russie sur l'Afrique et d'analyser la place que peut être la France après la fin de Barkhane. Alors un dossier à retrouver en kiosque, à retrouver également sur notre site internet revueconflit.com, où vous pouvez le retrouver en format papier et en format numérique. Je signale par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas accès à des kiosques à proximité de chez eux, ou bien des kiosques où Conflit ne serait pas diffusé, que vous pouvez acheter Conflit sur des librairies en ligne, type Fnac, De Citre, Amazon également, et le magazine vous sera livré chez vous, alors parfois avec des frais de port, parfois sans frais de port, ça dépend des sites, des libraires et des abonnements des uns et des autres, mais en tout cas c'est une manière de recevoir très facilement la version papier chez vous, même si vous n'avez pas de kiosque à proximité. Dans ce numéro 45 de Conflit, qui est donc en kiosque du mois de mai au mois de juin, outre le dossier consacré à Poutine et à sa main basse sur l'Afrique, plusieurs articles de fond dans la rubrique en jeu, notamment un bilan d'Angela Merkel, bilan plutôt négatif comme vous le verrez, ainsi qu'un grand article du démographe Gérard-François Dumont consacré à l'explosion démographique en Afrique. Et puis dans la partie stratégie, un article historique sur Rome et un autre sur la bataille de Midway. Voilà, ce sont quelques-uns des aperçus de ce numéro qui, comme à chaque fois, est composé de nombreuses cartes et graphiques pour vous permettre de décrypter le monde. Alors cette semaine, je vous propose d'essayer de répondre très brièvement, puisque c'est le format de cette émission, mais à une question qui est régulièrement posée, qui est celle des ressources naturelles et notamment de leur épuisement. On voit bien aujourd'hui que le monde vit essentiellement grâce au pétrole et au gaz, et on peut parfois avoir une inquiétude tout à fait légitime sur ce qui se passera lorsque les gisements de gaz et de pétrole auront disparu. L'histoire économique apporte des éléments de réponse à cette question. Et on peut faire au moins deux réponses. Le premier, c'est que les gisements ne seront jamais épuisés ou seront épuisés éventuellement dans un temps très long. Le deuxième, c'est que l'homme, dans son histoire, a déjà connu des épuisements de ressources et cela n'a pas empêché celui-ci, l'homme en question, de continuer à se développer. L'âge de pierre ne s'est pas achevé par manque de pierre. On a toujours des silex, mais les silex aujourd'hui ne sont plus une ressource. Et en fait, c'est là toute l'ambiguïté du terme de ressource. Une ressource, c'est ce qu'un homme utilise. Pendant de nombreux siècles, l'homme a utilisé des baleines, notamment pour s'éclairer. Il a utilisé la tourbe pour se chauffer. Aujourd'hui, cela existe encore, certes, mais ce n'est plus nécessaire. Et on voit bien que le pétrole est quelque chose de nouveau dans son usage. C'était utilisé à partir de la milieu fin 19e, et c'est surtout au 20e siècle que le pétrole connaît son essor. En France, il faut attendre l'année 1962 pour que la consommation de pétrole dépasse la consommation de charbon. Vous voyez que c'est quand même assez tardif dans l'histoire du siècle. Or, le pétrole a toujours existé, mais il n'est utilisé comme ressource qu'à partir du moment où on sait en faire quelque chose. Et on voit aussi que les gisements de pétrole ou de gaz, ça va souvent ensemble, sont régulièrement mises à jour. Par exemple, aujourd'hui, on a tous les gisements de la Méditerranée orientale qui sont extrêmement prometteurs. On a également les gisements de la mer Caspienne, notamment le Kashangan, des gisements dans le canal du Mozambique. Donc on est en train de voir s'épuiser les gisements de la mer du Nord. On voit également que les gisements du Moyen-Orient arrivent un petit peu à saturation, mais de nouveaux gisements sont découverts. Et puis, rien ne nous dit que peut-être que nous retrouverons en mer du Nord des gisements qui sont aujourd'hui inconnus. Donc il faut aussi être vigilant quant à la fin des gisements, quant à leur épuisement. En fait, c'est un phénomène qui est très bien connu des économistes, qui est le phénomène de la dernière goutte. Vous avez une bouteille avec un gisement à l'intérieur, un liquide. Quand ce liquide est en abondance, le prix du produit est peu cher. Et puis au fur et à mesure où l'abondance se raréfie, où le produit devient de plus en plus rare, le prix augmente. Ce qui a deux incidences. Le premier, c'est que ça oblige à s'adapter ou à disparaître face à l'accroissement de ce prix, c'est-à-dire soit à trouver des produits de substitution, soit à devenir beaucoup plus économe dans l'usage du produit. Et le fait que les prix augmentent font également que les entreprises qui vendent ce produit voient leur marge augmenter et peuvent donc utiliser une partie de leurs bénéfices pour faire de nouvelles explorations. C'est le cas notamment du gaz et du pétrole. C'est grâce à l'accroissement des prix du pétrole et du gaz, notamment dans les années 2010, que des entreprises comme Total voient leur marge augmenter, donc peuvent faire des investissements à long terme au Kashangan, en Méditerranée orientale ou au Mozambique. Alors un phénomène qui est souvent peu compris en France où l'économie n'est pas la discipline la mieux perçue, quand on reproche à Total, par exemple, de faire d'importants bénéfices. En réalité, il ne faut pas regarder ça sur une année, il faut avoir une vue un peu plus large sur plusieurs années, et les bénéfices que peut réaliser Total à un moment donné sont les moyens d'investir dans des futures explorations. Si Total ne fait aucun bénéfice ou ne fait que des bénéfices faibles, eh bien l'entreprise n'aura pas les moyens d'investir et par conséquent, elle signe sa perte, elle signe sa disparition à l'échelle de 5 ou 10 ans. Si je prends le gisement du Kashangan, et je renvoie d'ailleurs pour ça à notre numéro spécial consacré au Kazakhstan, où il y a un long article sur la mer Caspienne, le Kashangan. Le Kashangan, c'est un gisement extrêmement prometteur, qui, d'après les experts, a probablement des ressources de gaz au moins équivalentes à ce qu'on a au Moyen-Orient. Donc si c'est vrai, c'est très important. Mais c'est un gisement sur lequel Total est présent avec d'autres entreprises depuis 1992, c'est-à-dire au moment de la chute de l'URSS, de l'indépendance du Kazakhstan, Total a été une des premières entreprises à s'y rendre. Début de l'exploration 1992, avant qu'on arrive à une production, il a fallu quasiment une trentaine d'années. Les premières productions, c'est 2016-2017. Ça a été bloqué, il a fallu faire des réparations, faire des ajustements. Et aujourd'hui, en 2023, donc 31 ans après le début de l'exploration, le gisement n'est pas encore dans ses capacités maximales. Il y a encore des choses à développer et à améliorer. Donc on est sur des investissements qui sont non seulement extrêmement coûteux, extrêmement élevés, mais en plus sur des temps extrêmement longs. Donc on voit bien que cela est très fortement consommateur de capital. Et ce sont les bénéfices réalisés en 1985 qui ont permis les investissements de 1992 et qui permettent donc ensuite en 2023 d'avoir du gaz et du pétrole qui sort du Kashangan. Donc si Total n'avait pas fait de bénéfices au début des années 1980, nous n'aurions pas accès à ces ressources 40 ans plus tard. On voit bien que là, on va au-delà simplement d'un commentaire d'actualité, comme cela se fait trop souvent malheureusement sur les questions économiques, mais dès qu'on parle d'investissement et surtout d'investissement industriel, nous sommes sur des échelles de temporalité qui sont beaucoup plus grandes, qui sont de l'ordre de la décennie et dans ce cas précis du Kashangan, de l'ordre de 40 ans. On pourrait bien évidemment multiplier les exemples. C'est la même chose pour Méditerranée orientale, Médor, c'est la même chose pour le Mozambique, pour des gisements qui se trouvent dans le golfe de Guinée ou dans le golfe du Mexique. Et ce que j'évoque là pour le gaz et le pétrole est valable pour tout type de ressources. Pour la question alimentaire, bien évidemment, pour la question automobile, pour la question informatique. Et c'est toujours la difficulté en économie, c'est que le temps politique n'est pas le temps économique. Le temps politique est un temps court, c'est un temps de l'immédiat. Le temps économique est un temps long, c'est un temps au moins à l'échelle d'une dizaine d'années. Et ces deux temporalités qui ne sont pas les mêmes, qui fait que les uns et les autres n'ont pas besoin d'avoir des résultats au même moment. Les politiques doivent avoir des résultats très courts. Les investisseurs, les capitalistes, des résultats à une échelle plus longue. Eh bien, c'est en partie cette différence de temporalité qui est à l'origine de bien des incompréhensions et de bien des frictions. Mais on le voit, dans ce cas des ressources, gaz et pétrole, les estimations aujourd'hui, c'est quand même plusieurs siècles. D'ici là, on saura probablement passer à autre chose. On aura trouvé d'autres ressources très intéressantes et on aura modifié les structures économiques en ce sens.